Messieurs, dames, ces paroles sont faites pour nous tirer vers le haut, parce qu'on descend trop vers le bas. Dieu nous appelle à marcher sur les hauteurs. Et j'aimerais qu'aujourd'hui nous suivions l'exemple d'un homme de la Bible, Bartimée, que nous connaissons tous, qui s'est levé pour aller vers le Christ. Je voudrais prier avec vous et je vous demande de vous lever, justement. Je vous demande d'avoir cette attitude de départ, d'écoute, où l'on remet au Seigneur sa vie dans laquelle on ne peut pas faire beaucoup de choses. On n'est pas maître de tout. Avant d'ouvrir la Bible, ta parole, nous t'ouvrons notre cœur. Nous voulons que ces paroles qui ont bouleversé des milliards d'hommes déjà nous bouleversent aussi, nous élèvent vers des sommets, vers une lumière, vers une force, une paix qui nous appartiennent, car tu nous as donné ces choses. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne permettras pas que notre pied chancelle et que nous nous arrêtions en cours de route. Tu nous appelles. Que ta bénédiction, que ta joie, ta paix soient sur chacun de nous en ce jour. Et je te prie en particulier pour les malades au milieu de nous et ceux qui sont affligés par Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis, et à écouter, car la Bible s'écoute, Dieu parle dans la Bible. Et si Dieu parle, ça veut dire qu'on l'écoute. À écouter l'histoire de Bartimée dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 35. C'est des petites histoires tellement proches de nous, tellement proches de chacun de nos jours, avec ses ombres, ses lumières, ses rencontres, ses solitudes. Je fais la lecture, Luc 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, eux ils avaient des yeux, voyant cela, loua Dieu. Amen. Une foule qui passe devant un aveugle et personne ne lui parle. On a ça à Rennes tous les jours. Hein. Des gens qui croisent d'autres qui se disent jamais bonjour. Des gens qui croisent des malheureux et qui ne les regardent pas. C'est tous les jours qu'on a ça. La foule passe, il y a un aveugle, mais dans la foule il y a Jésus. Il y a un aveugle et personne ne lui dit « Prends courage, Jésus va passer. » La foule, c'est tout ce qu'il y a aussi dans notre tête. Il y a des foules dans notre tête. Et la nuit, quand on ne dort pas, les foules se mettent à danser. Des regrets, des mauvais désirs. La foule, ce sont nos désirs, nos projets, nos chagrins, nos pensées, nos jalousies. Cette foule qui s'agite en nous, qui ne nous laisse pas tranquilles et qui nous empêche d'entendre, de voir Jésus, qui nous empêche, disons-le clairement, de vivre. Cette foule de choses qui tournent en nous, qui nous aveuglent et qui ne nous permettent pas de voir nos quatre vérités. On ne se connaît plus, on pense qu'à ce qui tourne en nous et qui nous empêche surtout de voir la vérité de Jésus, la seule qui tient le monde et nos vies. Alors, il entend des gens qui passent et il ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il y a. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, c'est pas écrit dans la Bible, quelqu'un lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et vous, dans la vie, il y a parfois des gens qui font des actions discrètes, des aiguillages, j'appelle ça des aiguillages. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Il aurait pu dire, ce sont des gens. Non, Jésus passe. Autrement dit, c'est l'heure peut-être pour toi de faire quelque chose. Il devait être connu, Jésus. Hein. Jésus de Nazareth. Un jour, j'ai reçu une lettre, c'était écrit « Leprat, Rennes ». Je suis connu quand même. Pas de rue, pas rien, pas de numéro, rien. Leprat, Rennes. Bon, c'est arrivé quand même. Jésus de Nazareth. Tout simplement. Il était très connu, beaucoup plus que moi, évidemment. Et l'aveugle, là, il rebondit et il dit à cette foule, à Jésus qui est là quelque part, « Aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi. » Il faut savoir ce que c'est qu'un aveugle à l'époque. Quand on était aveugle, on ne pouvait pas travailler, évidemment. Et quand on ne travaillait pas, c'était la pauvreté. Et quand c'était la pauvreté, il n'y avait que la mendicité pour survivre. Et la mendicité, c'est la solitude. Et la solitude, c'est l'exclusion. Et l'exclusion, c'est la mort, de fil en aiguille. Ça me rappelle une histoire de l'Ancien Testament dans le livre d'Amos. C'est comme quelqu'un qui fuit un lion, qui court vite un lion. Il a réussi à le semer, et puis il tombe face à face avec un ours. C'est pas mieux. Alors, il a réussi à contourner l'ours, il arrive chez lui, il s'appuie sur le mur pour se reposer, il y a un serpent dans le mur. On ne s'en sort pas. Et cet homme ne s'en sort pas. Il a peut-être une femme, il a peut-être des enfants, mais il est condamné à l'exclusion, à la solitude, au déclin de la vie. C'est notre condition. Mais il crie, « Aie pitié de moi !» La pitié, vous savez, il y a une pitié méprisante. On voit les gens de bas, et on leur dit, je ne voudrais pas être à votre place. Je préfère être à ma place que d'être à votre place. Mais il y a aussi la pitié de Dieu, la bonté de Dieu, qui, elle, ne dit pas, je ne voudrais pas être à votre place. Mais Dieu est descendu en bas et il a pris notre place. Le très haut est devenu le très bas. Et voilà qu'il marche au milieu des poubelles et au milieu des décombres de la ville, au milieu des décombres de la vie. Dieu marche dans les ruines de nos vies, très bas, au rang des malfaiteurs. Avec la croix, Jésus a été au rang des malfaiteurs, ce qui veut dire au rang du péché, de la violence. Il s'est mis au niveau des catastrophes, au niveau des violents. Il s'est mis au niveau de le plus bas. Jésus est toujours plus bas que nous. Il va très bas. Aie pitié de moi. Oui, Dieu a pitié. Il a pitié parce que si nous sommes tombés, c'est qu'il y a un piège. Il y a eu un piège dans nos vies. La Bible dit dans le prophète Amos encore, un oiseau qui tombe dans le filet qui est par terre, il est tombé dans un piège. L'oiseau, il est fait pour voler là-haut. Il y a un filet sur le sol, là, tout seul, à plat, au ras du sol. Puis pouf, l'oiseau est dans le piège. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'oiseau? Il vole tellement haut. Il y avait un piège. Et puis il s'est retrouvé en bas, dans le filet. Je pense que Dieu n'a pas créé l'homme comme il est aujourd'hui. Quand je vois la vie des premiers hommes dans la Bible, je me dis quelle chance ils avaient. Ils n'avaient pas de portable. Ils n'avaient pas Internet. Ils vivaient calmement au rythme du soleil et de la lune. Il y a eu un piège, mes amis. Et ce piège, il date du début. Quand le serpent dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, « Vous serez comme Dieu. » Oh, quelle promotion, comme Dieu. Ouh. Voilà le piège. Vous allez sortir de votre petitesse là, et vous allez vous élever, et vous serez comme Dieu. Vous serez peut-être même un jour Dieu complètement. Et on y a cru. Mes amis, pitié, que Dieu ait pitié de nous parce que nous ne voyons pas le malheur arriver. Comme cet homme, il ne semble pas être aveugle de naissance. Donc il a eu un accident peut-être vasculaire ou je ne sais pas, cérébral. Enfin, bref, il est devenu aveugle. Et dans notre vie, il y a parfois des malheurs que l'on ne voit pas arriver. Je pense encore à une histoire de l'Ancien Testament. Quand il y a la fenaison, le fauchage de l'herbe dans les champs, quand on a fauché toute l'herbe, après il repousse une petite herbe, le regain. Ça repousse. Et là, cette herbe magnifique, elle est pour le cultivateur. Mais voilà, au moment où l'herbe commence à pousser, une invasion de sauterelles arrive et ravage tout. Et le pauvre cultivateur, il n'a rien. Il y a comme ça des malheurs. On espère toujours qu'il va y avoir un sursaut de bonheur et tout à coup, tout est fauché par des sauterelles. Je veux dire, par des complications. Vous savez, mes amis, devant les destructeurs de vie qui nous assomment, je pense que notre raison de vivre, ce qui nous raccroche à la vie, ne doit pas être nos biens, nos plaisirs, notre argent. C'est jamais mal d'en avoir. Mais notre raison de vivre doit être quelque chose de plus grand que nous, plus grand que le destructeur, doit être éternel, Dieu, Jésus. Alors on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et l'aveugle, il a entendu parler de Jésus et il s'est ressaisi. Avez-vous remarqué que Jésus n'a pas parlé à l'aveugle? Il a dit, appelez-le. Jésus a demandé aux gens de l'appeler. Jésus est passé par quelqu'un d'autre. Il ne lui a pas dit directement, toi l'aveugle là-bas, viens ici. Non, appelez-le. Le Seigneur utilise la Bible pour nous parler. Il utilise les prophètes de l'Ancien Testament. Il utilise les apôtres. Il utilise des aiguillages dans la vie. Des chemins qui nous amènent à lui. Alors l'aveugle s'est levé. Et puis là, il s'est trouvé devant Jésus. Vous savez, quand on est devant un grand personnage, puis qu'on ne voit pas, puis qu'on est entouré de gens qui nous regardent, on ne sait plus quoi dire. On bafouille. Et puis Jésus, il va lui donner une parole. « Que veux-tu que je te fasse ?» Il va l'aider. Il va lui souffler il va lui souffler tout ce qu'il pourrait demander. Peut-être est-il intimidé, peut-être a-t-il perdu complètement l'audace de demander « guéris mes yeux ». Vous savez, au théâtre, il y a ce qu'on appelle un souffleur. Ce n'est pas quelqu'un qui souffle comme vous pensez, non. Un souffleur, c'est quelqu'un qui est caché dessous l'estrade, sous les planches, et quand l'acteur, eh bien, il a une panne de mémoire, il ne se rappelle plus de son texte, le souffleur en dessous, il lui dit, il lui souffle des mots. Et je pense que ici, Jésus lui a soufflé, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il lui a soufflé une pensée en disant, « Demande-moi tout ce que tu veux. Que veux-tu que je te fasse ?» Le Seigneur lui a tendu la perche. Le Seigneur lui a donné la parole. Le Seigneur lui a ouvert une porte. Mais il le fait avec vous, mes amis. Il vous dit, et à moi et à vous, que veux-tu que je te fasse ? Quel est ton chagrin ? Quelle est ta prière ? Il faut un souffleur. Voulez-vous que je sois votre souffleur ? Que je vous guide pour que vous sachiez ce qu'il faut demander, la vie, l'espérance, la joie d'être, la simplicité, l'honnêteté, il y a tellement de choses à demander, une bonne année. Que veux-tu que je te fasse ? C'est une question insolente quand même, parce que l'aveugle, le pauvre, il demandait que la vue, bien sûr, mais il fallait qu'il dise ce mot-là. Je veux être pardonné, il faut le dire. Je veux la force de vivre, il faut le dire. Que veux-tu que je te fasse ? Parce que si tu donnes cette prière, c'est parce que tu penses que c'est possible, c'est parce que tu crois, c'est parce que tu attends quelque chose. Jésus, il souffle des mots dans le cœur de cet aveugle. Il souffle des mots pour que l'aveugle parte. Et le Christ nous a donné une parole pour nous mettre en route vers lui, pour nous dire, viens à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Maintenant, c'est à nous de nous lever et d'aller vers lui. Jésus nous donne le mot du départ. Quand on faisait la course à pied dans le stade, il y avait toujours un moment de départ, un claque. Et tout le monde partait. Jésus nous donne, pas une claque, mais il nous donne le mot du départ. Que veux-tu que je te fasse ? Je t'ai aimé le premier. Avant qu'on t'appelle, je te connaissais déjà. Dès ta jeunesse, je te connaissais. Dès le ventre de ta mère, je t'ai connu, je t'ai formé et je t'ai appelé à mon salut dès le ventre de ta mère. Quand Jésus dit « Que veux-tu que je te fasse ?», ça veut dire « Je m'occupe de toi personnellement. » J'attends ta réponse, j'attends ta prière. Les choses vont être données, mais il faut que tu en aies le désir. Que je recouvre la vue. Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Oh, quelle conversation, un flash, ça a pris 2 secondes. Et l'aveugle a été guéri instantanément. Toutes les histoires de la vie ne se termine pas aussi bien. Vous savez que parfois, on récupère sa brebis perdue, je pense à Jésus, on la récupère en entier, totalement, on la ramène au troupeau, et parfois, dans la vie, on récupère que des dégâts. Il y a encore une histoire de l'Ancien Testament qui dit, c'est comme un berger qui récupère sa brebis que le lion est en train de manger, il récupère un bout d'oreille, avec ça il ne va pas aller loin, un bout d'oreille et 2 pattes. Pauvre brebis, elle est déjà engloutie. Les histoires ne se passent pas toutes de la même façon. Il y a le berger qui récupère sa brebis, qui la met sur ses épaules, puis il y a l'autre qui récupère qu'un bout d'oreille et 2 pattes. C'est écrit dans la Bible. Mais enfin, avec un bout d'oreille, on peut encore entendre, quand même. On peut encore entendre le Seigneur nous parler. Et avec deux pattes, on peut encore faire un pas vers lui. Bon. Quand je travaillais à l'hôpital, j'étais avec les personnes âgées, et puis qui n'avaient plus rien, qui étaient grabataires jour et nuit, pendant des mois. Il ne restait plus rien de leur esprit, de leur force, de leur désir, et on ne leur parlait pas souvent du passé, donc ils étaient dans un monde inconnu. Mais parfois, il y avait un petit bout d'oreille, et on me disait, c'est quoi le Seigneur? C'est quoi Dieu? Il reste un petit bout d'oreille pour écouter une parole. Et notre aveugle, lui, il a été tiré totalement. Il est parti avec le Christ. L'Évangile dit, il a suivi Jésus dans le chemin. Il a suivi Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus? Ça veut dire qu'on laisse Jésus devant nous. Il est avant nous. Il est le premier. On fera comme lui. On n'ira pas à droite à gauche selon nos humeurs. On fera comme lui. On restera derrière lui, à son ombre, ou plutôt dans sa lumière. Pas son ombre, dans sa lumière. Suivre Jésus, ça veut dire que Jésus, il est le premier. C'est le premier de cordée. Vous connaissez les alpinistes qui montent les montagnes? Il y en a un en tête de tous les alpinistes qui s'appelle le premier de cordée. Il ouvre le chemin, il met des pieux et les autres suivent. Et Jésus, c'est le premier de cordée. Il nous ouvre un chemin. Pas un premier de cordée qui s'envole de montagne en montagne, puis nous, on ne peut pas suivre là. Un premier de cordée qui va à notre rythme, qui va juste devant nous sans nous dépasser, qui va de façon à ce qu'on le suive. Jésus aurait pu nous raconter tous les secrets de l'atome, tous les secrets de la matière, il aurait pu nous raconter des histoires sur les océans, sur la lune, les étoiles. Il nous a parlé des oiseaux, de la petite graine qui tombe dans la terre, il nous a parlé de petites choses parce qu'il ne veut pas aller trop vite, mais il nous tire à lui. J'attire les hommes à moi. Quand je serai élevé, premier de cordée, quand je vais monter, eh bien je vais attirer, il m'a attiré dans ma 18e année et il m'a bouleversé. Alors mes amis, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, appelez-le, c'est vous. Je vais terminer là. Le Seigneur nous appelle dans nos vies, et pas qu'une fois, à chaque chagrin, à chaque épreuve de maladie, à chaque terreur, chaque fois qu'une flèche vole pas loin de nous et pourrait nous tuer, le Seigneur nous appelle. Ne crains pas. Tu ne craindras pas le lion et la spique. Marche, je suis avec toi, je suis devant toi, j'écarte les dangers, je te précède et je serai avant toi dans la résurrection. Mais si j'entre dans la résurrection, toi, tu entreras aussi dans la résurrection. C'est bon. On sait où on va au moins. Parfois, des gens qui m'ont dit, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas dans la mort, je ne crois dans rien. La mort existe, Dieu existe. Autant régler vos affaires maintenant. Pas attendre demain. On sent bien que demain, il faudra rendre des comptes. On le sent bien, même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas pratiquant, mais on sent bien que tout ce qu'on fait de mal, ça ne passera pas à la tombe. Et il faudra qu'on rende des comptes pour ce papa qu'on a laissé mourir, pour cette femme qu'on a laissée de côté, pour, je ne sais pas, pour notre parent, notre père, notre mère. Il faudra rendre des comptes. Mais le Seigneur est là, il a pitié de nous. Que veux-tu que je te fasse? Nous sommes appelés beaucoup de fois dans notre vie. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 4 février, le Seigneur nous appelle. Et tout au long de la vie, il recommencera. Il t'appelle maintenant. Amen. Il t'appelle à vivre. Il t'appelle à te cacher derrière lui, comme derrière un rocher, derrière un bouclier. Vous savez que le bouclier, il prend tous les coups. Hein. Quand il y a une flèche qui arrive, boum, sur le bouclier, pouf, impeccable. Une pierre, boum, tac. Lui, derrière, le soldat, il est protégé. Le bouclier prend tous les coups. Heureusement pour nous. Heureusement pour les soldats d'autrefois. Et Jésus est le bouclier. Ça veut dire que tous les coups tombent sur lui pour vous protéger. Soyons pas ingrats. Soyons pas méchants. Soyons pas durs. Si Jésus prend les coups, c'est pour nous épargner. Et c'est pour nous sauver. Amen. Sur la croix, il a pris tous les coups. Du crachat jusqu'à la moquerie, au reniement, à l'abandon. L'abandon de son Père, de tous, du monde entier. Il a pris tous les coups. Souvent, vous me dites, je suis toute seule, personne ne me comprend, on m'a abandonné, on m'a laissé. Jésus, il a pris tous ces coups-là. Et aujourd'hui, il nous dit, lève-toi, je t'appelle. Que veux-tu que je te fasse? Je suis avec toi tous les jours, toutes les nuits. On va prier, Seigneur. Amen. Merci pour Bartimée, cet homme qui est devenu, sans le savoir, un exemple pour des millions d'hommes et de femmes, de croyants, d'incroyants, de gens bien, de gens mal. Il est devenu un modèle de rencontre avec le Christ. Tu nous dis cet après-midi, que veux-tu que je te fasse? Quelle souffrance détruit tes pensées? Quel souvenir ravage ton cœur? Quelle solitude te trouble, te perturbe? Le Seigneur est là avec nous. Le Seigneur pose sur nous un regard bienveillant, comme il a regardé Bartimée, qui ne le voyait pas. On ne voit pas Jésus. Jésus nous voit. Il sait tout de nous. Ce qu'on dit, ce qu'on ne dit jamais, ce qu'on fait, ce qu'on ne sait pas faire. Je ne sais pas me sauver moi-même, me guérir moi-même. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen.